Nous allons commencer par une petite initiation aux pères cappadociens. Les pères cappadociens, qui sont-ils? À quelle époque ont-ils vécu? Et qu'est-ce qu'ils nous ont transmis? Ça, c'est une question qui est fondamentale parce que des pères cappadociens, nous tirons toute notre théologie, donc la théologie orthodoxe. Théologie chrétienne de l'Église indivise d'abord. Si on veut parler comme ça, ce qui est une vue de l'esprit, parce que ça n'a jamais existé, l'Église indivise, mais aujourd'hui, on se plaît à dire ces choses-là. Il faut bien penser que les pères cappadociens vécurent, et ça c'est très important, après le premier concile œcuménique, donc le concile de Nicée. Alors, ils ont écrit tout ce qu'ils savaient et tout ce qu'ils pensaient, sur Dieu, sur le Christ, sur la Vierge Marie, sur le Saint-Esprit, notamment. La Vierge Marie est un peu plus tard.
Quelle année le Concile de Nicée ?
325. Ils ont écrit tout ça après le Concile de Nicée. Alors, le Concile de Nicée, qu'est-ce qu'il met en place ? Il met en place le credo, notre credo. Nicée, qui sera complété par Constantinople, donc le troisième concile. Nicée-Constantinople, et qui sera ratifié complètement pour le quatrième concile en 451 pour Chalcédoine. Mais ça, nous n'allons pas jusque-là. Le premier concile de Nicée met en place donc le credo, comme je disais, qui est le credo, une façon de voir le credo, de dire le credo, qui est à peine plus archaïque que la nôtre, avec quelques versets de moins. Mais la substance est là. De quoi on parle? Et de quoi parlent les pères cappadociens? C'est très important. Alors, il y aura premièrement la Sainte Trinité. La Très Sainte Trinité, comme quand nous récitons le credo, il faut savoir que nous parlons de la Très Sainte Trinité, donc de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tout ça dans le credo a sa hiérarchie. Nous nous en souvenons. Alors, Saint Grégoire de Nazianze, pour passer à Saint Grégoire de Nazianze, pour aller rapidement et non pas épiloguer sur le credo de Nicée-Constantinople. Saint Grégoire de Nazianze est un des pères de l'Église qui a marqué le plus la chrétienté. Et c'est l'ami de Saint Basile de Césarée.
Voilà, je cherchais son ami.
Et qui me l'a donné. De Saint Grégoire de Nice. Alors, ils sont trois pères, ce sont ces trois pères de l'Église, ces trois saints hiérarques, ces docteurs œcuméniques, comme on les appelle aussi, qui s'appelleront les pères cappadociens. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient en Cappadoce. Saint Jean Chrysostome est un petit peu postérieur à tout ça, mais il n'est pas très loin de tout ça, Saint Jean Chrysostome. Et d'ailleurs, toute sa théologie est basée là-dessus aussi. Mais on ne va pas épiloguer sur Saint Jean Chrysostome non plus.
La Cappadoce, à l'époque, était grecque.
Absolument. Ce qu'on appelle toute la Turquie actuelle, voilà. De l'Anatolie jusqu'à la Syrie, qui est la Cappadoce, était grecque, absolument grecque. Et d'ailleurs, un peu plus haut, il y avait la petite Arménie, la basse Arménie aussi appelée la basse Arménie. Et nous avons tout ça, dans tout ça, un ferment théologique énorme qui influence durablement donc toute la partie orientale de l'Empire, et qui, par ricochet, mais beaucoup plus tard, influencera l'Empire romain d'Occident.
Beaucoup plus. Le troisième, c'est Saint Grégoire de Nicée, Saint Grégoire de Nazianze, et le troisième,
Saint Basile de Césarée.
C'est Saint Basile.
Saint Basile le Grand. Voilà. Saint Basile le Grand, que nous avons fêté le 1er janvier. Et qui est le summum, on pourrait dire. Mais Saint Grégoire de Nazianze est appelé le théologien. Il n'y en a que trois dans l'histoire de l'orthodoxie. Trois théologiens, uniquement.
Et les deux autres sont ?
Alors, il y a Saint Siméon, le nouveau théologien.
Ouais.
Et il y a Saint Jean, le premier. Saint Jean, l'évangéliste, dit le théologien. Parce que son évangile est tellement inspiré. Et d'ailleurs, les premiers versets du prologue de Saint Jean mettent en place toute la théologie trinitaire, et d'ailleurs toute la théologie chrétienne. Et on peut dire que tout découle de là.
Bon. Donc là, on est dans les années combien ? 500 ?
Saint Jean le théologien.
Oui, Saint Jean le théologien.
Alors Saint Jean, c'est, il a écrit le quatrième évangile et l'Apocalypse. Oui,
donc le
premier siècle. On en est à 50 après Jésus-Christ, 50-70 après Jésus-Christ. C'est pas voilà. Là, on remonte un petit peu. Voilà. Voilà. Donc Saint Grégoire de Nazianze, 329-390. Nous sommes à la fin du IVe siècle, milieu et fin du IVe siècle. Évêque de Constantinople, mais d'abord de Sazime. C'est pas très important, mais il a été évêque de Constantinople. C'est-à-dire qu'à son époque, juste après lui, il y aura la transition vers l'archevêché. Constantinople sera élevé au poste d'archevêché, au trône d'archevêché. C'est-à-dire qu'après lui, Constantinople devient patriarcat. Avant lui, ce n'est qu'un évêché de l'Empire romain. La particularité de Saint Grégoire de Nazianze, c'est qu'il vit dans un empire qui, au départ, n'a que la tolérance envers la chrétienté. 311-313, nous savons que Saint Constantin le Grand, Constantin Ier, aura comme devoir d'éditer, de dire que, au peuple romain, d'Orient et d'Occident, de dire que la chrétienté est tolérée. Il y aura des retours, des allers-retours entre la tolérance, l'intolérance, diverses hérésies qui vont se greffer dessus, mais peu importe. En tout cas, c'est lui qui va poser les bases. La chrétienté ne sera
quel
que
empereur?
Saint Constantin le Grand.
Constantin.
Voilà.
Saint-Hélène.
Voilà.
Et sa mère,
voilà. Alors, entre 311 et 313, nous avons cette transition-là, les édits de tolérance envers la chrétienté, où cohabiteront pendant 70 ans à peu près les rites païens, les religions païennes, il faut bien le savoir, il n'y en avait pas qu'une, les religions païennes,
le judaïsme,
absolument, et d'autres religions que nous ne connaîtrons pas, parce que finalement elles sont nées, disparu comme un...
Il y en a
probablement des centaines, mais ça, c'est pas un problème.
La religion païenne romaine telle qu'on la connaît,
oui,
avec ses dieux hérités de la Grèce antique,
oui,
n'était pas la seule religion des Romains avant la chrétienté.
Disons qu'elle était déjà très divisée. Il n'y avait pas qu'une seule obédience chez les Romains. Dans la religion païenne, comme on la voit nous, on la voit monolithique, parce qu'on est habitué à notre monothéisme chrétien, on voit à peu près. Mais imaginez-vous qu'à l'époque, il y a un peu comme aujourd'hui, diverses tendances chrétiennes. Aujourd'hui, on dit tendance, à l'époque, on aurait dit secte. Chez nous, nous avons des protestants calvinistes, nous avons des adventistes, oui, nous avons des évangélistes, des évangéliques, etc., des pentecôtistes, des luthériens, des catholiques traditionnalistes ou pas. À l'époque, c'était exactement pareil.
Jours,
voilà, oui, oui, c'est ça, des d'accord, mormons, etc.
Oui, et qui mettent l'action sur tel ou tel lieu.
Voilà, des témoins de Jéhovah, etc. Et voilà. Et à l'époque, c'était exactement pareil. Absolument, l'action était sur certains dieux ou pas, sous telle préférence, d'autant plus qu'à l'époque, il y avait déjà une religion qui se développait énormément, que les soldats avaient ramené d'Orient, qui était le mithridatisme. Qui était une espèce de trinité, mais divisée, elle était polythéiste. Bon, enfin, on ne va pas rentrer là-dedans. Alors, ce qui se passe, c'est que vers 379-380, fin du IVe siècle, est légalisée, la religion d'État devient la chrétienté. Devient...
Quel siècle ?
Fin du IVe siècle, en 380, si je ne m'abuse, je ne sais pas si je dis une bêtise ou pas, en tout cas c'est dans ces années-là, je ne me souviens plus exactement, où la chrétienté devient religion d'État.
À la fin de la vie de Grégoire.
Voilà, absolument. C'est 10 ans avant qu'il meure, avant qu'il passe au Seigneur, nous avons l'Empire romain qui devient chrétien. Il devient chrétien par loi, c'est une loi. Voilà, on n'a plus le droit d'avoir des rites païens. D'ailleurs, quelques années plus tard, seront détruits les temples, seront ou réutilisés les temples. En tout cas, la religion païenne deviendra obsolète d'État, selon les lois de l'État. Mais en réalité, c'est une transition beaucoup plus douce que ce qu'ont raconté les historiens jusqu'à présent, ce qu'on a appris. C'est pas aussi dur que ça. En réalité, il y a eu des syncrétismes. Il y a eu des syncrétismes qui sont dus aussi bien à la religion païenne qu'au judaïsme, qu'à des tendances chrétiennes qui s'étaient inspirées de spiritualité gnostique. Et donc tout ça fait un mélange dans l'Empire romain En Orient, surtout. En Occident, il y aura bien peu par rapport à ça. Ce sera plus tardif. Mais en Orient, il y a beaucoup, parce qu'il y avait un ferment religieux énorme, surtout dans les zones coptes d'aujourd'hui. À Nabaté, par exemple, en Égypte, à côté d'Alexandrie, en Syrie, etc. Et du côté de la Perse, où les premiers apôtres ont essaimé le christianisme, ils se sont greffés sur des spiritualités qu'on appelle gnostiques. Et cela a conduit certains chrétiens à professer des idées. À professer des idées parce que ça leur convenait, parce que spirituellement, des fois, on peut tendre vers certaines choses comme ça, en se disant que oui, par exemple, le Fils de Dieu, bon, c'est pas le Fils de Dieu, mais c'est un prophète, ou l'Esprit Saint n'est pas l'Esprit Saint, mais ce n'est que l'énergie de Dieu, etc. Donc ce n'est pas une personne de la Sainte Trinité. Et tout ça est devenu hérésie. Pourquoi ? Parce qu'il fallait donner un canon bien particulier, qui sera donné à partir de 325 du Concile de Nicée, qui statue justement sur une hérésie en particulier, une hérésie multiforme. Ce n'est pas qu'une hérésie monolithique, là aussi, avec plusieurs tendances, qui est l'hérésie arienne. L'hérésie arienne, qui est toujours vivace aujourd'hui d'ailleurs, nous la retrouvons très...
Ça existe encore.
Ah oui, nous la retrouvons très souvent. Toute l'histoire de la chrétienté est reprise par et vécue dans une résurgence de l'hérésie arienne, en fait. Et elle a été à chaque fois le moteur d'un renouvellement de la chrétienté. Alors, c'est là que je veux mettre un point d'honneur à tout ça, c'est que l'hérésie, en général, fait partie de la construction du dogme orthodoxe et du dogme de la catholicité.
Autrement dit, c'est en s'opposant à l'hérésie qu'on a créé le dogme.
Qu'on crée le dogme et qu'on est orthodoxe. C'est un fait très positif. Dans un sens, c'est un fait très troublant. Mais dans un autre sens, c'est un fait très positif parce qu'elle nous fait bouger sur nos bases les plus stables. Elle nous invite comme le diable avec Job dans l'Ancien Testament, elle nous invite à nous retourner sur nous-mêmes et à nous poser les bonnes questions. Et à retourner vers le Christ surtout. Et à regarder la figure du Christ. Et non pas regarder à droite à gauche comme Pierre qui s'enfonce dans l'eau du lac de Galilée. Hein, regarder toujours le Christ pour ne pas s'enfoncer dans l'hérésie. Mais alors quand on connaît tout ça, évidemment, on est ferme dans son dogme, donc on est ferme dans son orthodoxie, ou sa catholicité, au sens grec du terme, c'est-à-dire universel, du christianisme universel. Alors, Saint Grégoire de Nazianze, en tout ça, il est appelé le théologien, pourquoi ? Parce que c'est celui qui pose les bases, durables, comme j'ai dit tout à l'heure, de notre orthodoxie. Donc de la catholicité, de la soi-disant Église indivise, même si elle n'existe pas. D'ailleurs, Saint Grégoire de Nazianze sera très clair dans ses textes. Ce qu'il fait pour construire son dogme est de stigmatiser d'emblée l'hérésie. Or, j'ai parlé de l'hérésie arienne. Il y a aussi l'hérésie apollinariste. Alors, ces deux hérésies sont deux hérésies majeures du IVe siècle. Et l'hérésie arienne, comme je disais, existe toujours. Elle existe, elle tape à nos portes le jeudi en général. Si vous avez eu des problèmes avec des gens qui tapent à vos portes, qui veulent vous vendre un livre ou vous donner un livre, c'est des tenants de l'hérésie arienne. Ils ne savent pas souvent, mais ce sont des monarchianistes, ce qu'on appelait dans l'Antiquité les monarchianistes des deux premiers siècles, et qui ensuite est devenu l'hérésie arienne.
Alors maintenant, il s'appelle comment ?
Témoin de Jéhovah.
Ah, c'est les témoins. Et donc, ils se présentaient le jeudi ?
Alors ça, c'est leur jour de mission.
Ah oui, je ne savais pas, je l'apprends.
Le jeudi est le jour de la mission, voilà. Donc, et le jour du prosélytisme, enfin le jour de la parole de Dieu, c'est le jeudi. Bon.
C'est les descendants de
l'arrière. Alors, souvent, ils ne savent pas. Mais ceux qu'ils professent, je ne dis pas qu'il y a cause à effet, attention, hein. Le témoin de Jéhovah professe quoi ? Quand il vous donne un livre, souvent il y a le Christ dessus. Ouais. Attention, ce n'est pas le Christ, c'est Jésus.
Ah, d'accord.
D'ailleurs, sur leur livre, il n'y a pas la croix, il y a juste un pilori. Il y a juste un pal, c'est-à-dire un poteau. Il n'y a jamais la croix. Le Christ, chez les témoins de Jéhovah, et c'est pareil chez les Ariens, c'est ça, c'est la ligne directrice. Après, il y a différentes obédiences, et on verra ce que... Le Christ, chez les témoins de Jéhovah, n'est qu'un prophète. Il n'est jamais le Fils de Dieu. Il est un prophète qui est plus que l'homme, mais moins que Dieu. Comme on a dit, comme le Père en a parlé pendant l'homélie. Et ça, il faut bien se le mettre en tête. Les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens, parce que chrétien vient de Christ. Chrismé. Ils n'acceptent pas ce chrisme. Le chrisme, c'est aussi la croix. Chrisme. D'accord ?
Et quel était le nom de l'autre hérésie dont vous parliez, dont tu parlais, Père ?
C'est l'apollinarisme. Et ça, on verra un peu plus tard.
Ça n'apprête rien à voir. L'arianisme, est-ce que c'était par rapport à Hitler qui se référait?
Absolument pas. Alors, absolument pas. Alors, je veux revenir là-dessus très rapidement.
Ça ne s'écrit pas pareil.
Non.
J'ai l'impression que ça s'écrit pareil. J'y pensais aussi.
Alors, oui, c'est... Non, pas du tout. Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence? La grosse différence, c'est que le prophète, celui qui a professé l'arianisme en premier, c'était Arius. Les Ariens s'appellent Ariens.
Parce qu'ils sont disciples d'Arius.
Voilà. Quand on parle de l'abomination hitlérienne, qu'on dit les Ariens, de la race arienne, voilà, il n'y a aucun rapport. C'est qu'en fait, les Ariens qu'on pense... et qui, soi-disant, sont blonds aux yeux bleus, ce qui n'est pas faux, parce qu'en Afghanistan et au Pakistan, vous en trouvez, de ces peuples-là, et vous en trouvez même beaucoup, avec les yeux verts, avec les yeux bleus,
on
les cheveux blonds.
En Afghanistan, Pakistan, oui, c'est pas un peuple germanique.
Mais c'est un peuple indo-européen. La racine du peuple indo-européen germanique, et donc de l'Europe, c'est là-bas, c'est le berceau. C'est
l'Inde,
quasiment. Absolument. C'est l'Afghanistan, les hauts plateaux de l'Afghanistan, et vous trouvez des gens comme ça. Des gens qui me ressemblent, qui vous ressemblent, qui ont les yeux bleus, etc. Voilà. Et il n'y a pas de différence. Attention, quand on va chez ces gens-là, vous voyez que nous n'avons aucune différence avec eux. Je parle selon la physionomie. Voilà.
Comme certains Kabyles en Algérie.
Alors les Kabyles en Algérie sont des descendants des Germains qui ont envahi l'Algérie à la fin de l'Empire romain d'Occident. Donc, ils sont blonds aux yeux bleus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été... Bon. Alors, revenons sur cette théorie. Hitler prend cette théorie, il la pervertit, en fait. Hein. C'est juste une perversion de la théorie qui existe déjà et qui est une théorie vraie, qui est celle des Indo-Européens qui envahissent l'Europe, qui colonisent l'Europe et qui transforment les langues en Indo-Européens. Point barre. Il n'y a pas à faire de racisme là-dessus ou de choses bizarres là-dessus. Ça n'a rien à voir. C'est une réalité géographique, etc. Qu'est-ce qui se passe ? L'arianisme, les Ariens sont appelés Ariens. Donc ceux qui viennent d'Inde ou d'Afghanistan, ils s'appellent Ariens. Pourquoi ? Parce que il y a un terme en sanskrit que l'on dit Arya. Arya qui veut dire noble. Donc
la race noble.
La race noble, absolument. Ça n'a rien à voir avec Arius.
D'accord.
Ça se ressemble beaucoup.
Oui,
bon. Ça n'a rien, ça se ressemble beaucoup, mais ça n'a rien à voir.
Que ça n'a rien à voir.
Non, mais c'est bien de savoir que justement ça n'a rien à voir.
Alors, voilà, ce qui est intéressant, après cette digression, ce qui est intéressant, c'est de voir la lettre théologique. Alors, il s'agit de la troisième lettre théologique de Saint Grégoire. Saint Grégoire, nous, dans cette petite lettre, parce que c'est la plus petite du livre, en fait, il y a trois lettres qui stigmatisent l'hérésie pour la construction du dogme. Alors, Saint Grégoire a un ton très... Il invective. Hein. À l'époque, il faut bien savoir que... Voilà, l'apologétique... Voilà, l'apologétique, qui est habitué à l'apologétique, donc à contrer les Juifs sur leur terrain, sur le terrain théologique, parce que les Juifs étaient très forts, ils lisaient la Bible, enfin, ils lisaient l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, jusqu'au 7e siècle, est en construction. Donc, on avait à se déterminer... Les chrétiens avaient à se déterminer par rapport à la connaissance des textes sacrés et à créer un texte qui était un texte inspiré du Christ, de la vie du Christ, mais on avait à déterminer tout ça. Donc il fallait être très véhément. Le ton qui était utilisé était violent parfois contre les hérétiques, contre les juifs, qui était devenu hérétique par la force des choses, parce qu'il n'avait pas accepté la révélation. Mais, donc, il faut toujours replacer dans son contexte. J'ai entendu des bêtises énormes de dire que, par exemple, Saint-Jean Chrysostome était antisémite ou était civil, par rapport aux critères que l'on a aujourd'hui. Par rapport aux critères qu'on a, ils sont tous antisémites. Alors, tous les pères de l'Église sont antisémites, si on veut parler, si on veut pas partir là-dessus. Il faut pas rentrer dans ce jeu-là. Le politiquement correct ne peut pas exister quand on utilise les pères de l'Église, quand on travaille là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est pas la même époque, parce qu'on a 2000 ans de différence avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que le contexte historico-social était complètement différent. L'étude des textes était différente. Donc, on va faire l'impasse là-dessus, parce que ça ne sert à rien. On va rentrer dans le texte, vous avez le texte. Donc c'est Anecter, évêque de Constantinople. Nectar, à cette époque-là, est évêque de Constantinople, mais ça, c'est pas très grave, un personnage qui finalement ne nous intéresse pas trop, à part le fait que la lettre lui est destinée. Pourquoi elle lui est destinée? Parce que, effectivement, Constantinople était un foyer bouillonnant, comme tout l'Orient, comme la Syrie actuelle, comme le Liban actuel, comme l'Égypte actuelle. Un foyer, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'hérésie et de bouillonnement culturel et philosophico-théosophico-religieux, etc. Vous pouviez tout mélanger là-dedans. Et on va commencer à étudier ce texte-là. Et qu'est-ce que nous trouvons dans ce texte-là? Après, je vous en souviens. Qu'est-ce que nous trouvons dans ce texte-là? Alors, après, si vous voulez bien, on reparlera d'Arius. Nous trouvons donc des personnages qui seront les clés d'entrée dans ce texte. On va le faire d'une façon assez historiographique, parce que c'est important, parce que en fait, ça nous donne les clés de la construction de ce dogme. Alors, le premier personnage que nous retrouvons est Arius. Arius, vous allez le trouver.
Dans quelle langue?
À l'origine, c'est du grec. Oui. À l'origine, c'est du grec magnifiquement bien écrit. Non, mais on va le lire en français. C'est tout en français. Oui, non, mais il y a une page en grec, une page en français. Non, mais on va pas faire du grec ancien. Là, c'est inutile. Ce serait utile si on faisait de l'étude philologique pour pousser un peu plus les concepts. Mais non. Alors, dans ce texte-là, nous allons trouver donc Arius. Oui. En tout cas, sa doctrine arienne. Nous allons trouver Eudoxe. Voilà. Nous allons commencer par ces deux personnages. Enfin, nous pouvons trouver aussi un homme.
Ça y est, en bas,
hein. Voilà. Là, c'est
Macédonios,
oui, très bien. Et Apollinaire, finalement. Donc, mais...
Eulosios.
Oui.
Et Eulosios, non?
Eulosios, non, mais ça, c'est pas très important.
D'accord.
Alors... donc, partons sur Arius. Alors, qui est Arius? Arius est un prêtre. Bien, j'ai remué. Alors, Arius, sa période sa vie s'étale entre la fin du 3e siècle et le début du 4e siècle, la moitié du 4e siècle, on peut dire. Et c'est un prêtre, qui à la base est un prêtre tout à fait orthodoxe, catholique, parce qu'à l'époque on dit catholique encore, jusqu'à très tard d'ailleurs, qui est un prêtre, un très bon prêtre, et qui, qui en réfléchissant, évidemment, au contact de la culture alexandrine, qui est une culture très philosophique. Nous savons qu'à Alexandrie s'est développée une école dite alexandrine, chrétienne, qui avait comme chef de file Origène. Cette école d'Alexandrie, qui était opposée à celle de, de Nisibe et à l'école d'Antioche, qui était beaucoup plus littérale, une étude littérale des textes sacrés. À Alexandrie, on faisait beaucoup de métaphores, on faisait beaucoup de philosophie autour de la théologie. Et Arius, très certainement influencé par tout ça, va composer une idée directrice, une nouvelle théologie. Pour lui, ce ne sera pas une nouvelle théologie, ce ne sera que logique, en fait. Il va professer une hérésie, et une hérésie qui s'appelle l'arianisme, et qui est de dire que le Fils de Dieu... Alors là, je fais que les bases, hein, on ne va pas rentrer dans les subtilités. Que le Fils de Dieu n'est que un prophète. Mais l'arianisme a influencé les moines ariens, parce qu'il y avait des moines ariens à la naissance de l'islam, ont durablement influencé l'islam.
Mahomet a été influencé par un chrétien, il me semble que c'était un arien.
C'était un moine arien d'une grotte, c'est là qu'il rencontre l'archange Gabriel, soi-disant. Et c'est un moine arien qui lui enseigne la théologie. Et effectivement, le Fils de Dieu, pour nous, le Christ, n'est qu'un prophète pour l'islam. Et n'est qu'un prophète pour les Ariens. Voilà. Mais ça, il ne faut pas trop le professer. Alors, il y en a qui en parlent. Il y a des musulmans qui en parlent. Mais non, pour les Juifs, il n'y a rien du tout. Pour les Juifs, il n'existe pas.
Les musulmans disent qu'il y a trois prophètes, Moïse, Jésus et Mahomet.
Il n'y a même pas un mot sur le Christ.
Non, non.
La Torah, ça. À David.
Comment ?
Oui, les musulmans, du moins certains... c'était le curé de ma paroisse qui en parlait à l'époque où j'étais catholique, lui avait dit, il y a trois prophètes, trois grands prophètes, Moïse, Jésus et Mahomet. Mahomet étant selon le plus grand.
Qui a dit ça ?
Des musulmans, mais...
Ah, des musulmans, d'accord, ok. Je ne sais pas.
Pour les musulmans, le Christ est un grand prophète.
C'est pas le fils de... les Youssef et les Myriam ont les prénoms des parents du Christ.
Ah non, mais il n'y a pas de problème. Sur Mariam, donc Marie, il y a un chapitre entier dans le Coran. Il n'y a pas de... non, il ne vénère que Dieu. Que Dieu.
Il y a une sourate pour Mariam.
Oui, mais il y a une... Voilà.
Ils en parlent.
Ils en parlent, elle est très respectée à ce niveau-là. Vénérée, non,
Elle est même inscrite. Il y a une sourate qui est inscrite à la mosquée.
Oui.
Voilà.
On adore que Dieu, oui.
Voilà. Non, ça, il faut bien se le dire. Bon, alors, pour revenir à ça, nous avons donc, en fait, pourquoi ? Pourquoi cette question ? Et Saint-Grégoire de Nazianze va combattre ça rapidement. Pourquoi ? Parce que, en faisant ça, ce mouvement-là détruit complètement la Très Sainte Trinité. Très Sainte Trinité, logiquement, si on suit ce mouvement-là, est détruite d'emblée. Il n'y a plus de Très Sainte Trinité, il n'y a plus que de dyade. C'est-à-dire deux, c'est-à-dire Dieu et le Saint-Esprit, si on le respecte. Mais l'arianisme, il met un point, un petit bémol là-dessus aussi, c'est que le Saint-Esprit n'est que l'énergie de Dieu, en plus. Donc ça revient à dire que l'arianisme est un monothéisme strict, comme le sera l'islam à partir du 7e siècle. Et là, on retrouve véritablement l'islam. Là, je ne suis plus le seul à le dire. Il y a des grands penseurs islamiques, en France qui le disent, notamment celui qui fait culture
le dimanche matin.
Qui a discuté là-dessus. Personne n'est dupe là-dessus. Les seuls qui sont dupes là-dessus, ce sont les extrémistes qui continuent à professer que c'est l'ultime révélation. Bon, tout ça est une construction. Alors, Arius est un prêtre, justement, de la fin du début de ce 4e siècle, où, finalement, le concile de Nicée n'a pas eu son impact encore. Il n'a pas eu son impact parce que Nicée est à côté de Constantinople. Et géographiquement, c'est assez loin d'Alexandrie. C'est assez loin de la Syrie.
Oui, parce que lui, Arius, il était à Alexandrie.
Oui, c'est ça, c'est un alexandrin. Oui. Donc, il est très influencé par la philosophie, la théosophie et le gnosticisme alexandrin qui venait d'Égypte profonde, là où on trouvait des textes encore en copte, dans ces langues du Nil. Hein. qui était gnostique, où par exemple le Christ n'est qu'un ange, ou le Christ n'est quelqu'un qui n'a pas souffert. Bon, ça sera plus tard avec les apocryphes et ce qu'on appelle les textes gnostiques, mais il y avait déjà, ça existait déjà. D'autant plus qu'après, à une certaine époque, il y aura les Arabes qui vont envahir, les Perses qui envahissent entre-temps. Enfin, c'est tout un mélange. Donc on est très loin d'Alexandrie, et il faudra quelques années pour qu'on se rende compte de son hérésie. Alors, Saint Grégoire de Nazianze, vous allez me trouver donc les phrases qui parlent de ça, là-dedans, parce que c'est très important, et c'est là que nous allons commencer l'étude du texte.
Ça,
oui, non, mais c'est un atelier qui est fait pour... Non, allez-y,
c'est trouvez-moi... De
voilà, trouvez-moi tout ça.
Les partisans de l'hérésie d'Arius, ou d'Eudoxe, poussés à la déraison par je ne sais qui, comme s'ils s'étaient emparés d'une liberté totale de parole, font parade de leur propre maladie. Ils réunissent des assemblées, agissant ainsi comme par fonction. Quant aux disciples de Macédonios...
C'est ce qu'il faut en parler aussi de ça.
Voilà, on va s'arrêter là. Très bien. Alors, quelles paroles sont utilisées là-dedans? On va faire un petit peu de rhétorique. Des paroles violentes qui aujourd'hui sont violentes quand même. Comment Saint Grégoire de Nazianze qualifie ces gens-là?
De déraisonnables.
Déraisonnables.
Et faisant parade de leur propre maladie, donc étant fiers de leur erreur.
Parade de leur propre maladie. Est-ce que la maladie est quelque chose à ce sens-là, est quelque chose de physique, c'est la maladie spirituelle, absolument. Voilà. Alors voilà, absolument. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil, c'est donc la pire des maladies. On peut dire ça comme ça, en commentant rapidement, c'est la pire des maladies. Ils font parade, donc ils sont fiers d'exhiber cette erreur spirituelle.
Et ils prennent des décisions eux-mêmes, puisqu'ils réunissent des assemblées.
Voilà.
Agissant comme par fonction, comme si on leur avait dit de le faire.
Et voilà. Alors, très bien. Aujourd'hui, moi j'aime toujours bien faire le parallèle avec notre actualité. Ils réunissent des assemblées. Ou de eux-mêmes, donc sans obéissance, ça veut dire. Sans obéissance, ils réunissent des assemblées.
Ils auraient dû obéir à qui?
Ils auraient dû obéir à leur patriarche.
Et là, le patriarche...
Ou leurs évêques, pardon.
D'Alexandrie,
il y avait un évêque auquel il aurait dû...
un évêque orthodoxe, enfin catholique à l'époque, on disait.
Ils auraient dû
demander conseil.
L'évêque Nectaire.
Voilà. Alors, non, ça, c'est à Constantinople.
Ah oui.
Bon, enfin, ouais, on n'en parle pas tout.
Mais c'est lui qui... C'est Saint Grégoire de Nazianze essaie d'éclairer ce qui se passe à cause de cette hérésie. Or, il est évident que cette hérésie d'Alexandrie a très vite fait le tour. Très vite, très doucement, on combat l'hérésie, mais très vite, une hérésie se répand. Il faut bien se mettre ça en tête. Alors, petite parenthèse, cette hérésie, l'hérésie arienne, a durablement influencé l'Empire d'Orient, mais aussi l'Occident. L'Occident, qui à cette époque-là est déjà en décadence, l'Empire d'Occident, et par un évêque autonomé, ou en tout cas ordonné par je ne sais qui, je ne me souviens plus, c'est pas très important, qui s'appelait Wulfilla, qui était un évêque goth, donc germain.
Ils arrivent jusqu'en Espagne.
Alors, ils font le tour par l'actuel Dacotras, c'est par l'actuelle Roumanie. Mm-hmm. Ils remontent. Ils font tout le tour des pays germains, en tout cas allemands aujourd'hui, de langue allemande, de langue germanique. Ils font tout le tour. Et avec les invasions, ils descendent sur l'Italie, les grandes invasions, donc à la chute de l'Empire romain, et même avant. Ils font le tour de l'Empire. Ils descendent en Italie, ils descendent en Gaule, et ils descendent en Espagne avec les Visigoths. Les Visigoths, les Alamans, etc. Mm-hmm. Les Alamans. C'est pour ça qu'on appelle les Allemands, parce qu'il y avait un peuple qui s'appelait les Alamans.
Les Ostrogoths, les Visigoths, les Alamans étant les trois principaux.
Voilà. Ils font le tour comme ça et ils arrivent jusqu'à Carthage.
D'accord.
Jusqu'en Tunisie, actuelle. C'est pour ça qu'on trouve d'ailleurs les Kabyles dans les montagnes. C'est les descendants de ces gens-là. Donc, ces gens-là étaient convertis quasiment tous à l'arianisme. Donc, pendant jusqu'au 7e siècle à peu près, 7e, 8e siècle, il y a des résurgences et de l'arianisme historique qui existe, ou semi-arianisme, on va passer aux subtilités par la suite, qui va faire le tour de la Méditerranée et qui va influencer la civilisation européenne.
Mais on comprend dans un sens, parce que c'est plus facile que de croire la vérité.
Absolument.
Parce que se dire que le Fils de Dieu n'est qu'un prophète, il est venu sur la terre, qu'est-ce qui nous prouve que... Enfin, ceux qui veulent vraiment raisonner avec la raison raisonnante, donc c'est plus facile de penser que c'est un prophète. Et le Saint-Esprit comme... C'est l'énergie de Dieu, c'est pas si gênant que ça, quoi.
Voilà. Voilà.
Alors voilà, ça, on serait facilement prise par l'arianisme.
Non, mais c'est très facile. Non, mais absolument, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez absolument raison.
Sur le principe de la raison,
oui.
Ça se tient mais, par rapport
à et en plus, si on s'en tient à ce qui n'est pas la foi, mais ce qui est avéré véritable, c'est le Christ a été sur terre, c'était un homme avec un charisme extraordinaire, qui a fait des disciples,
absolument.
Et qui est mort sur la croix.
Absolument.
Ça, je pense que c'est ce qui est historiquement vérifié.
Voilà.
Oui, mais comme on le voit, c'est autre chose.
Voilà, mais comme on le voit, c'est autre chose, absolument.
Et il y a des. Même si historiquement ça a existé, voilà. Bien sûr, mais.
Voilà. Enfin, des personnalités comme ça.
Les années passent.
Qui prennent la liberté.
Des faux prophètes.
Des choses comme ça, et de faire le tour.
Ça, c'est une nouvelle idée.
C'est-à-dire, ça fait le tour de la Méditerranée.
C'est pas eux qui font le tour de la Méditerranée,
mais c'est l'idée. C'est l'idée.
Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une liberté, quelque chose qui est d'un courant qui est. Qui est très fort et qui est quand même fait que ça met les gens en mouvement de réflexion quand même aussi.
Absolument.
Et c'est pas anodin, même si c'est pas tout à fait.
Moi je comprends pourquoi ça a pris.
Oui. Ah oui, ça, et ça prend très bien, et vous le voyez, l'actualité, moi je fais toujours d'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, le lien avec l'actualité, c'est-à-dire c'est un des points fondamentaux. Comment les témoins de Jéhovah arrivent à convertir entre guillemets autant de personnes. Et les Mormons pareil d'ailleurs. Comment ils y arrivent à le faire. Le Christ chez les Mormons, c'est l'ange. Il n'y a pas vraiment de Christ, mais c'est l'ange qui est au-dessus de leur cathédrale dans l'Utah, dans l'état de l'Utah aux États-Unis, où il y a un ange avec sa trompette.
Ça, c'est plus difficile à croire. Moi, je trouve que.
Bon, ça c'est une.
Mais c'est une représentation.
Mais c'est tout ça, c'est du vécu théologique, c'est voilà. De l'interprétation. Voilà, et on est dans la facilité. Et après, dessus, on reconstruit quelque chose. Alors, c'est en ça que notre théologie est assez puissante, et très forte même, assez puissante, c'est qu'elle arrive à chaque fois englober toutes ces choses-là. Alors, il y a des fois où, évidemment, le bras armé de l'État doit prendre le relais parce qu'on n'y arrive pas. Mais dans l'orthodoxie, finalement, à part à Constantinople, bon... Il y a eu des heurts, mais ça s'est finalement assez bien passé. Assez bien passé, pourquoi ? Parce que les contestations théologiques étaient de suite encadrées par de grands théologiens comme Saint Grégoire, Saint Basile, voilà, Saint Grégoire de Nice.
Nice, ça s'écrit comment ?
NY2SE. Et ensuite, Saint Jean Chrysostome, qui alors, lui sera le chantre de la... anti-hérésie, le chantre des homélies, dont on s'inspire encore aujourd'hui, le système de Saint Jean Chrysostome, si système il y a. Donc, voilà. Nous avons donc deux personnages, Arius et Eudoxe. Qui est Eudoxe ? Eudoxe est un suivant, est un disciple d'Arius. Son importance est finalement... assez vague, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur lui. Nous savons simplement qu'il a été évêque d'Antioche, vers 370.
Donc, prénom, ça fait bizarre.
Oui, Eudoxe.
Ça fait sans voir, finalement, en
franc. Non, Eudoxe, non féminin, au contraire, c'est la très grande gloire.
En Russie, c'est très répandu.
Eudoxie, oui.
Ouais. Ouais. En fait, c'est la très grande gloire. En français, E-U, Deox. Donc, c'est la très grande gloire. Eve. Donc, ça, c'est la gloire. Et Eve, c'est au-dessus.
Eve
Logia, c'est la bénédiction. Euvlogia, c'est la bénédiction, par exemple. Le verbe qui est au-dessus. Donc, c'est un verbe qui est béni.
Donc, c'est bon. Pleine de gloire. Enfin,
pleine de gloire.
Alors
ben, quel nom, hein.
C'est lourd. Avec gloire.
Quelle est la particularité de Dox qui vit à la fin jusqu'à la fin du 4e siècle, du début du 4e siècle à la fin du 4e siècle? Il est qu'il fait partie de ces Ariens intransigeants. Alors parce que après, ils se sont divisés en Ariens intransigeants, et, enfin Ariens orthodoxes et Ariens plus ou moins Ariens, semi-Ariens, etc. Comme toutes les sectes d'ailleurs. Oui. C'est un peu le truc des sectes, c'est que dès qu'il y a une déviance, ça se divise en dizaines de tendances qui revendiquent chacune une vérité, une vérité propre. Et là, la particularité, cet évêque, de faire partie de faire partie des anoméens. Des anoméens. Des anoméens. Alors, ça, c'est une particularité de l'arianisme. Être anoméen. C'est d'ailleurs ce qui avait été combattu au Concile de Nicée en 325. Anoméen. Alors, nous avons, nous, comme résultat, voilà. Des anoméens. Vous y êtes ?
Oui, oui, oui.
Alors, qu'est-ce que professaient ces gens-là? Ils professaient ce que Saint Nicolas combattra, et Saint Spyridon d'ailleurs, combattront pendant le concile de Nicée en 325. C'est là que vient la gifle de Saint Nicolas à Arius pendant le concile de Nicée, qui présentera ses théories. Saint Nicolas lui donne une gifle en plein concile. En réalité, ce n'est pas une gifle physique, c'est une gifle théologique qu'il lui donne. Hein. On parle de gifle comme ça, mais il faut relativiser les choses. Il lui a cloué le bec, absolument. C'est plutôt ça qu'il faut voir, plutôt qu'une... Alors, peut-être qu'il lui a donné, parce qu'apparemment, Saint Nicolas n'était pas un tendre non plus. Quand il s'engageait pas pour rien.
C'est comme le roi d'Espagne, quand Chavez s'énervait, lui il s'est tourné vers lui, il a dit « Polquet non te caillas, pourquoi tu te tais pas ?»
Voilà.
Ça a calmé Chavez.
D'accord. C'est un peu comme ça. Donc, ils s'affrontent deux tendances à ce concile. On revient toujours à ce concile, hein, 325. Les Zoméens.
Ah,
il y a
Oméens et Anoméens.
Zoméens,
c'est la...
Non, Oméens. Oméens
et Anoméens.
Et alors
C'est écrit dans le texte, Oméens?
Non, pas du tout. Ça, c'est une explication.
Anoméen, c'est
lié. Et privatif, Anne,
j'imagine. Alors, les Oméens. Les Oméens, qu'est-ce que professent les Oméens? Oméens,
Anne, privatif.
Oméens, parce que tu fais la liaison.
Oui,
c'est pas. Les Oméens, voilà, il n'y a pas de Z. Sinon, on
n'aurait
pas de
Z. Oui.
Alors,
les Oméens, donc, professent simplement que le Christ, tout simplement, hein, sans trop de digression là-dessus, que le Christ est semblable.
À l'homme.
Comme homis en grec.
D'accord.
Qui veut dire pareil, qui est semblable au Père.
Ah, autrement dit, le regard du Père.
Non, semblable.
Les Oméens disent que le Christ est dit semblable au Père.
Voilà.
Ben oui, mais alors ça.
Alors, ce qui mettra un problème de base, parce que nous, on se base sur une théologie qui est de l'homoousios. C'est-à-dire que le Fils est pareil au Père, mais il est de même substance, il est consubstantiel au Père aussi. Il y a tout ça qui est dessous, sous ces termes-là.
Mais le Christ peut ressembler, même s'il est pareil au Père, parce que le Père a fait l'homme à son image.
Oui,
mais attends, là,
c'est
il
ça.
Il ne s'agit pas de l'homme, il s'agit de
oui,
Dieu.
Oui, mais c'est pour ça que le Christ, voilà. Quand il est descendu sur terre, il ressemblait aux hommes, parce que Dieu a fait l'homme à son image.
Oui. Voilà. Ce Fils est ensemblable au Père. Il ne spécifie pas en quoi il est semblable. Ce que fera le concile de Nicée, où on devient...
En parlant de consubstantiel.
Voilà, donc c'est homoousios et pas homios. Ce qui est très différent. C'est-à-dire, il est semblable ou consubstantiel. On décidera qu'il est consubstantiel. Être semblable, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut y mettre un peu tout là-dedans. C'est ce que disaient les Ariens, finalement, pour essayer de revenir un peu dans l'orthodoxie, pour essayer de ne pas être trop persécuté à un moment donné, sur les idées au moins. Ils ont dit, oui, le Fils est semblable. Ben oui, mais semblable en quoi? Ils n'ont jamais précisé ce qu'il en était. Alors, est-ce qu'il est semblable en nature? Est-ce qu'il est semblable physiquement? Est-ce qu'il est semblable dans je sais pas quoi, dans les actes, dans les... On ne sait pas bien. Ça ne veut rien dire. La théologie arienne s'est arrêtée là. Mais avec toute l'intelligence qu'ils avaient, elle s'est arrêtée là parce que il y avait quand même eu de grandes théologies de leur côté, mais c'est arrêté là. Donc, ça, c'est un des grands points du Concile de Nicée qui mettra un terme et qui qualifiera donc d'hérésie à ce moment-là, l'arianisme. L'arianisme est déclaré hérétique, est déclaré hors la loi, donc enfin, hors la loi des chrétiens, en tout cas, n'est plus chrétien, n'est plus en communion, hein, voilà, qui est excommunié, comme diraient les latins, par rapport à la pensée catholique de l'époque. Donc, ils ne font plus partie de l'œcuménisme. C'est-à-dire de la même langue. On ne parle plus la même langue, en fait. Et avec tout ça, vous allez voir un peu plus loin. Il y a une autre, on va passer rapidement tous les détails. Et vous allez voir un peu plus loin que Saint Grégoire de Nazianze essaye de qualifier une autre hérésie, qui est une autre hérésie qui est très importante, qui peut-être semble plus confidentielle aujourd'hui, car elle est très difficile à déterminer, qui est l'hérésie d'Apollinaire. Ouais. Alors, les apollinaristes. Ce sont les mêmes années. On est du début du IVe siècle à la fin du IVe siècle, donc 310-390 pour Apollinaire. Qui était un grand théologien, en fait. Sa qualité était celle-là. Il était évêque. Apollinaire de l'Odyssée, qui est une ville où il y a eu des conciles aussi, d'ailleurs. Conciles locaux, mais il y a eu des conciles. Et qu'est-ce qu'il professait, cet Apollinaire ? Une est la nature incarnée de Dieu, le Verbe. Ce qui, finalement, ne veut pas dire grand-chose, est assez orthodoxe. Hein, si on le regarde comme ça, rapidement, une est la nature incarnée de Dieu le Verbe. Alors, qu'est-ce que vous avez quoi, sur Apollinaire dans vos textes ?
Il affirme que la chair assumée selon l'économie, par le Fils unique, n'est pas acquise après coup, en vue de la transformation de notre nature. Je comprends bien.
Alors, n'est pas acquise après coup. Alors, on s'arrête là tout de suite.
Oui.
N'est pas acquise après coup. Qu'est-ce que cela veut dire? Ou la nature du Christ, la nature de chair, est acquise après coup?
Après sa résurrection?
Non, quand il naît.
Ah, quand il naît, elle n'est acquise qu'après coup?
Oui.
Elle n'est pas acquise à la naissance, mais
chez nous elle est acquise à la naissance, voire à la conception si on veut aller plus loin, à la conception,
il a assumé la chair humaine en naissant
et même avant d'ailleurs dans le ventre de sa mère. Il existe déjà en tant que chair. Il existe en tant que chair, le Christ. Nous, dans l'orthodoxie, nous ne délions jamais l'âme du corps dans l'orthodoxie. Qu'est-ce qui se passe là?
On différencie alors.
Là, dans l'apollinarisme, Apollinaire nous dit, dans sa théorie, dans sa théologie, qu'au départ, en fait, il veut. Voilà. Il vient du ciel. Si on veut dire ça comme ça, on veut faire une image, un petit tableau comme ça. Non, il est déjà. Il est déjà Christ, déjà formé.
Depuis toujours.
Oui. Il est déjà Christ. Il est déjà en chair.
Ah oui.
C'est-à-dire...
Cette nature charnelle était dès le commencement dans le Fils.
Voilà, elle était déjà charnelle.
Autrement dit, c'est...
Ça veut dire qu'il a mis des millénaires à descendre.
Des millénaires, un temps infini, ou peu importe, le temps de Dieu. On ne peut pas définir. Il était déjà incarné à la base. si on veut parler de selon l'incarnation, hein, ce qui est un concept à ce niveau-là complètement fou. Mais
dit avant qu'Abraham fût, je suis.
Voilà.
Oui, sur la base de cette phrase-là, alors.
Et c'est absolument ça.
Sur la base de cette phrase.
Voilà.
Tu m'as demandé. Ben,
mais je fus, ça peut être je fus en esprit.
C'est la
Bible. Ça, que ça, en esprit. Ça permet de douter, ça.
Alors que d'après Apollinaire, c'est encore.
Voilà.
D'après Apollinaire, ce serait encore.
C'est-à-dire que le Christ existe déjà en tant qu'homme, dans le sein de son Père.
Ben oui, mais il y a justement
dans ce cas, l'incarnation dans la Vierge n'a pas de sens.
Absolument.
Comment, alors,
dans le Credo, c'est ça. Il est le Fils de Dieu, né du Père.
C'est juste une illusion, en fait.
Né du Père avant tous les siècles.
Ouais. Né du Père avant tous les siècles.
Donc.
Non, il est né du Père avant tous les siècles.
Oui, mais
oui, quelle nature
là, il était, mais pas dans
avant l'histoire de l'humanité. Mm-hmm. Il était déjà là.
Oui.
Mais pas en tant que.
Il est né parce qu'il est consubstantiel.
Pas en tant que fils de l'homme.
Non, pas en tant que. Voilà. Pas qu'en tant que fils.
Pas en tant que fils de l'homme.
Qu'est-ce que nous différencions à ce niveau-là, nous, chez les orthodoxes, en nous disant qu'il fait sa kénose quand il devient homme en tant que chien.
Oui, c'est le texte de Saint-Paul.
Il descend, voilà. Absolument. Il descend pour prendre notre nature, la nature. Charnelle, basse, qui a été corrompue, pour nous déifier. Jean-Claude Larcher fait des conférences là-dessus, sans arrêt, sur la déification de l'homme. Aussi, c'est pour combattre le gnosticisme qu'Irénée de Lyon parle de ça. Donc la kénose est un point central de notre théologie, il ne faut jamais l'oublier, toujours l'avoir présent, pour éviter justement de partir dans l'apollinarisme. C'est ça aussi, c'est facile. Alors Apollinaire, justement, elle est très tordue, elle est très élaborée, sa théologie, beaucoup plus que celle d'Arius. Elle est très élaborée et elle nous prend là où ça fait mal. Hein ? Comment on peut dire si dans le credo, qui est déjà fait, qui est déjà placardé dans toutes les églises catholiques du monde romain, et qui est lu, pendant les liturgies, qui étaient beaucoup plus courtes qu'aujourd'hui, mais qui est lu, ce credo, face à un peuple qui ne sait pas écrire souvent, qui n'a pas trop de culture générale, comment on va lui expliquer ça ? Apollinaire, d'un coup, c'est une révolution. Dans ce... il nous dit que la vérité, en fait, si on regarde rapidement comme ça.
Référence dans les textes sacrés, en plus.
Absolument, mais c'était un très bon exégète.
Voilà.
Et il était très cultivé, et c'est ça qui fera sa force, mais aussi sa faiblesse. C'est parce que son concept, à la base, nous voyons très bien qu'un Christ qui est déjà né, comme vous disiez, un Christ qui est déjà né, implique que la Vierge Marie, que la Mère de Dieu, ne serve à rien, et que, encore une fois, comme pour l'hérésie nestorienne par la suite, et comme souvent chez certaines interprétations catholiques, notamment à partir des jésuites et même un peu avant, la religion chrétienne, le catholicisme, ne deviennent plus qu'une morale. Si tout le cycle est arrivé avant, pourquoi on se fatiguerait à prier ? De toute façon, c'est ce qu'avaient dit les disciples d'Origène. On l'a imputé à Origène, il ne faut pas trop y croire. C'est-à-dire que tout revient en Dieu, à la fin. Ça s'appelle l'apocatastase. Donc tout ce qu'on fait est nul et non avenu. On peut même être méchant, quoi qu'il en soit, nous reviendrons à Dieu.
Oh, mais ça marche bien encore aujourd'hui, ça. Hein,
ça a toujours bien marché.
Hein, en fait, il fait comme un Arius.
On peut se confesser qu'au
second. Pourquoi lancer la semaine après?
Il fait une analyse tellement
complète.
Complètement, très pragmatique.
Il fait comme Arius, il fait une analyse tellement plus pragmatique.
Ben oui,
parce que c'est vrai que la conception de la Vierge Marie, on y croit, mais
pas la garde de Dieu.
C'est pas...
on sait quand même pas comment ça s'est fait. Enfin, c'est difficile de croire.
Ça suffit qu'une seule
fois. C'est un mystère. L'intervention.
C'est un mystère. De...
C'est incompréhensible que ça s'est fait qu'une seule fois dans toute l'histoire.
C'est très bien. C'est là que c'est une histoire de foi, absolument.
Mais
non pas une histoire rationnelle.
Apollinaire.
C'est pour ça que ça marche.
Est-ce que son influence a été telle que 15 siècles plus tard, le poète avait son nom en nom de famille?
Alors ça, je ne me suis pas posé. C'est vrai que ça me... Mais je ne suis pas allé à fond dans cette question-là. Il est possible, parce qu'Apollinaire était un révolté, Et il est possible qu'il ait fait ça.
Il s'appelait Willem Apollinarius, je ne sais pas de quelle origine il était.
Je ne pense pas que ce soit ça.
Ça n'a pas de rapport, son famille, avec le... avec le disciple. Avec
il aurait disciple. Fallu poser la question à Apollinaire lui-même.
Ah, oui. Peut-être.
Voilà.
Je ne sais pas si...
On est dans du fondamentalisme, là.
Ouais. Ça serait écrit quelque part, ouais. Ça. On l'a lu nulle part.
C'est ça.
S'il avait choisi, si on lui avait donné ou qu'il ait choisi ce nom pour ça, non, il l'aurait écrit quelque part.
Non, il n'a pas choisi. C'était son nom de famille. Oui, c'est pour ça que je me demandais si c'était resté pour devenir ensuite un nom de famille.
Il y a eu plein de femmes qui se sont appelées Apolline et tout ça. Donc, c'est un nom qui a toujours perduré. Apolline, oui. Il y en a eu plein
d'Apolline. Apolline, Pauline, enfin, bon, tout ça, voilà, c'est vrai. Mais...
Oui.
Mais comme disait Elisabeth,
ça
va dans la même ligne que Arius.
Ah, mais oui.
C'est-à-dire que c'est plus simple, beaucoup plus simple, et qu'on comprend.
Là, il n'y a plus de mystère.
C'est ça.
Mais il n'y a plus de mystère.
Il n'y a plus de mystère, absolument. Voilà. Alors, ce n'est plus une histoire de foi.
Voilà.
Ça devient une histoire d'histoire.
Voilà.
Je vais. Voilà.
Ouais, c'est intéressant ce que, comme tu dis.
Donc, c'est. Voilà. Bâtis, absolument. Voilà. La chrétienté devient une morale.
Voilà.
Il n'y a plus de place à la prière, il n'y a plus de place à l'esprit, il n'y a plus de place à la repentance, surtout.
Ouais.
Ce n'est plus une religion. Au miracle. Ce n'est plus une religion.
Non,
voilà. Ça, c'est pas possible.
Ce n'est encore moins une spiritualité.
Oui, exact.
Il faut essayer de ne pas perdre cela. Et surtout la spiritualité dans l'Église orthodoxe est encore très présente. Il faut essayer de ne pas perdre cela à cause des influences rationalisantes que nous avons autour. Essayer de protéger notre prière, essayer de protéger, pas dans le sens agressif, attention, je ne suis pas dans l'ostracisme, mais essayer de protéger cette spiritualité par quelque chose qui dépasse la rationalité. C'est-à-dire quand on nous dit 1 plus 1 égale 2, eh bien moi, depuis tout petit, pour ça que je prenais des tapes, je suis encore d'une époque où on donnait des tapes aux élèves qui n'étaient pas bons, j'avais une maîtresse horrible d'ailleurs, et je disais égale 3.
Ben oui.
Pourquoi 3? Parce qu'il y a 3 éléments, 1 plus 1, il y a 3 éléments. Et si on veut faire les choses, démonter les éléments, il y en a plus que ça, on peut aller jusqu'à 8 même, parce qu'il y a égal aussi. Et le plus, c'est 2 barres. Et, enfin bon. Et il faut essayer d'aller plus loin. Mais alors, attention de ne pas aller trop longtemps, trop loin dans le détail non plus, parce que, comme disait un grand poète, le diable est dans le détail,
oui.
En anglais.
Oui.
Mais en fait, c'est Dieu qui est dans le détail. La vraie phrase, c'est « Dieu est dans les détails ». Dans le détail, c'est un père de l'Église qui l'a dit, je ne me souviens plus d'ailleurs qui est. Mais à ce moment-là...
Ça, c'est un détail pour moi.
Mais à ce moment-là, il faut faire attention parce que le détail devient rationalisant.
Oui.
Alors, quand on va en prière, quand on est en prière, et je conclurai un petit peu là-dessus, après si vous voulez parler, on pose des questions. On ira plutôt dans le fait de ne plus se poser de questions. C'est pour ça que dans le monachisme orthodoxe, en général, même si ça existe chez les catholiques, c'est très présent, dans certains ordres très priants, comme les bénédictins ou les chartreux surtout, il y a l'obéissance, qui est un vœu. Mais alors, dans l'orthodoxie, c'est un vœu qui normalement est fait aussi par le peuple. On obéit au père, on obéit au prêtre, au premier prêtre de la paroisse. On obéit au moine, même si ce n'est pas un prêtre. Mais c'est pas qu'il va nous dire fais ça, c'est pas ça. C'est que dans ses paroles, dans une discussion, on va trouver que est passé par là le Saint-Esprit, quelque chose qui peut influencer durablement notre vie ou en tout cas nous donner une nouvelle direction. Et d'ailleurs, je connais très mal, j'ai jamais connu un moine qui m'a dit 1 plus 1 égale 2. Moi, jamais dit ça. Ils disent des choses des fois qui ont peut-être pas de sens sur le moment, mais qui le prennent ce sens. Qui prennent le sens de la vie, le sens de notre vie, et qui peut-être peut nous mener, mais certainement je pense, à regarder plus facilement l'icône du Christ, la face du Christ, mais du Dieu vivant. Toutes ces théories-là ne sont pas vivantes. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient bien rationnelles et rationalisantes. Et on le voit sur le Saint-Esprit qui est terrible, rationaliser le Saint-Esprit. C'est pour ça que Saint-Basile écrira le traité sur le Saint-Esprit, qui est un livre comme ça, qui, je vous l'avoue, est très difficile à lire. Mais je vous invite à le lire quand même, parce qu'il en ressort quand même toujours quelque chose, même si on comprend qu'une seule ligne sur tout le livre, c'est déjà pas mal. Et voilà.
Et là, c'est un peu là. La deuxième partie, là, oui. Où il dit, bon, j'ai pas compris. Après l'histoire de Jésus,
oui.
Enfin du Christ, il dit, il allègue encore un mot de l'apôtre en le dépouillant de tout l'ensemble du contexte. Ce mot, c'est le second tome vient du ciel.
Oui.
Alors toute la partie sur le second tome, j'ai pas compris.
Alors là, le second tome. Eh bien, c'est ça un peu qui... Alors ça, c'est assez... disons que... Je voudrais pas dire qu'il s'est un peu pris les pieds dans le tapis, mais disons que s'il n'a pas assez bien explicité le concept. Le premier homme, c'est celui qui a été créé en Dieu. Selon la théorie apollinariste. Donc, le Christ est déjà créé. Celui qui naît de la Vierge Marie sera le second homme.
D'accord. Le second homme vient du ciel.
Ouais. Alors, il vient du ciel, mais il s'incarne.
Et alors, ensuite, il présente cet homme venu d'en haut comme n'ayant pas l'esprit humain.
Voilà. Voilà.
C'est... Mais la divinité.
Voilà.
Fils unique remplit le rôle naturel de l'esprit.
Donc voilà, là, il prend son propre jeu apollinaire, à sa propre théologie, c'est-à-dire qu'il analyse ce que veut expliciter la théologie apollinariste. Il dit que le Christ, en étant comme ça, n'est pas passé par la femme, donc n'est pas passé par l'homme en général, pour devenir homme, qu'il est venu sur terre... Comme plus tard, nous le verrons peut-être un jour, chez les manichéens, que le Christ n'est qu'un ange, qu'il n'a pas d'esprit humain. Il y aura d'ailleurs une théologie là-dessus, qui est un peu, qui quelques années plus tard sera déclarée hérésie aussi, qui est le monophysisme. Il anticipe. C'est pour ça qu'on l'appelle le théologien, parce qu'il avait déjà anticipé ce qui allait se passer. C'est-à-dire que le Christ, en naissant, n'aura pas de, à part sa physionomie humaine, n'aura pas de goutte, si je dis, de substance humaine en lui. C'est-à-dire que son âme n'est qu'esprit de Dieu.
Oui, c'est ça que tu veux dire quand tu dis mais la divinité du Fils unique remplit le rôle naturel de l'esprit.
Voilà,
c'est ça que ça veut
voilà.
dire. Ouais.
Et c'est pour ça que nous ne sommes pas en communion toujours avec les Coptes orthodoxes, en théorie, avec les Coptes orthodoxes d'Égypte ou d'Éthiopie, c'est parce qu'eux disent que il y a, Dieu est tellement puissant que la partie humaine de notre âme ne peut plus exister en Christ, parce qu'elle est absorbée complètement en Dieu. Ce qui, pour un orthodoxe, est une hérésie, mais c'est pas si choquant que ça, parce qu'il est vrai qu'on peut dire que Dieu est tellement puissant qu'il peut absorber notre nature comme ça. Néanmoins, la théologie orthodoxe dit, et Saint Grégoire de Nazianze se fait déjà partisan de ça, qu'il y a, et Saint Maxime le Confesseur, quatre siècles plus tard, dira, dans la contestation monothéliste, il y aura certains empereurs qui seront monothélistes, dira que la partie, si on veut parler comme ça rationnellement, la partie de Dieu en Christ et la partie de l'homme sont différentes, certes, sont existantes aussi, mais sont encore en concordance totale. C'est-à-dire que le Christ est Dieu et homme. Il est les deux. Toujours. Apollinaire dit qu'il n'y a plus d'homme.
Oui, voilà, c'est ça que ça veut dire.
Alors, il est Christ.
Alors, l'homme, il n'y a pas d'homme.
À la base, mais il n'y a pas d'homme.
Il n'y a pas d'homme.
Le Christ, comme
le
chez
Christ
les...
Le Christ est Dieu descendu sur terre, voilà. Selon Apollinaire.
Point barre.
Mais pourtant, il dit que ce Dieu, fils unique lui-même, le juge de tous, l'auteur de la vie, le destructeur de la mort, il le présente comme mortel, en plus.
Oui. Oui, parce que de toute manière, il finit sur la croix, même pour Apollinaire.
Sa partie humaine, non.
Oui. Mais alors, ce qui était entendu, la tendance qu'il y avait là derrière, c'était les tendances gnostiques. Qu'est-ce que disent les tendances, la plupart des tendances gnostiques de l'époque? Qu'est-ce qu'elles disent? C'est que le Christ s'est joué, notamment il y avait l'hérésie docétiste, les docétistes, qui était une hérésie qui se rapproche énormément du manichéisme. Qu'est-ce qu'il disait? C'est que le Christ s'était joué de tous en se faisant crucifier sciemment.
Ah oui. Et c'est sa propre divinité qui a subi la passion.
Voilà.
Et pendant cette durée de 3 jours où son corps fut mort, sa divinité aussi fut morte avec son corps. Et c'est dans ces conditions qu'elle a été ressuscitée de la mort par le Père.
Mais ça, dans mon humble...
Voilà. Déjà, là, sa divinité est morte pendant 3 jours. C'est hérésie.
C'est pas pensable.
Déjà, ça, c'est hérésie.
Ouais. Ouais.
Donc, deuxièmement, ça nous donne l'impression que le Christ se joue de nous.
Voilà, c'est ça.
Et qu'en fait, il est commandé comme une marionnette par le Père.
Oui.
Ce qui est faux, parce que le Christ aurait pu décider de ne pas être le Christ, parce que lui aussi, il avait son libre arbitre. Mais comme dit saint Maxime le Confesseur, voilà, il fait obéissance au Père et son esprit est en concordance avec l'esprit de Dieu, parce qu'il est Dieu.
Mais ça, j'étais pas loin de le croire. Entre guillemets, ce que vous racontez. Par exemple, c'était pas loin de croire que toute l'histoire de Judas, le Christ savait que son heure était venue et que Judas, en fait, le Christ n'a pas été joué comme une marionnette par Dieu, le Père, mais Judas était manipulé un peu comme une marionnette par le Christ parce qu'il savait que son heure était venue et qu'il fallait.
Ça aussi, c'est un
peu. Voilà. Alors, le Christ n'a manipulé personne. Déjà d'une. Donc ça, tout ce qui parle comme ça, les évangiles qui sont écrits là-dessus, il y a l'évangile de Judas, l'évangile des évangiles qui sont apocryphes, ou en tout cas gnostiques, parlent tous d'une manipulation. Il faut bien se mettre ça en tête. Or, le Christ n'a jamais manipulé. C'est le dessein.
Mais il a accepté, il savait ce qu'il faisait.
Absolument.
Ah oui.
Qui, Judas?
Le Christ,
bien sûr.
Il savait que Judas allait le trahir.
Oui, absolument. Les desseins de Dieu étaient écrits.
C'était son meilleur ami. C'est celui qu'il aimait le plus.
Les desseins de Dieu sont déjà écrits. Le Christ aurait pu refuser, tout en sachant.
Bien sûr.
La Vierge Marie aurait pu refuser l'économie du salut.
À Gethsémani, il dit bien, si Père, si tu peux, éloigne de moi cette coupe.
Cette coupe, absolument.
Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ces dernières paroles.
Non, ça c'est autre chose. Non, ça c'est autre chose. Là, il y a une erreur.
Alors, saint Maxime le Confesseur le reprendra, les deux phrases, là, les reprendra, il explique très bien, mais il faut lire saint Maxime le Confesseur, mais aujourd'hui, on n'a pas là. Il explique très bien, d'ailleurs, il écrit un livre comme ça là-dessus, rien que sur ça.
Pourquoi m'as-tu abandonné là?
Mais dis-le en résumé.
C'est un psaume.
Oh,
c'est un psaume qu'il était en train de réciter.
Voilà. Ouais.
Et c'est pas du tout Jésus qui dit pourquoi m'as-tu abandonné.
Voilà,
il était en train de réciter des psaumes.
Ok,
c'est
ça ne reste pas son père.
22, je travaillais en hébreu. Donc c'est pas du tout une parole du Christ, il récitait.
Oui, mais c'est la parole du doute.
Ah, ça change beaucoup de choses dans ma tête.
Non, il récitait.
Il a le droit de douter aussi.
Parce que les gens ont retenu cette parole-là.
Mais pourquoi ce psaume-là?
Pourquoi il a dit à ce moment-là?
Pourquoi ce psaume-là?
Mais parce qu'il n'arrêtait pas de réciter des psaumes. C'est à ce moment-là que ça s'est arrêté.
Il y a un autre truc qui m'avait frappé. Tu parlais, Père, des hérésies, entre guillemets.
Oui.
Et des batailles entre chrétiens, entre guillemets. Chez lui...
Attendez, s'il vous plaît. Revenez. Pascal dit quelque chose.
J'ai lu il y a peu de temps, sur les conseils du Père, Georges, une vie de saint Arsène de Cappadoce.
Oui.
C'est beaucoup plus récent.
Oui.
Saint Arsène de Cappadoce considérait les musulmans, qui étaient très nombreux, qui étaient très fortement majoritaires dans la région, comme ses frères. Mm-hmm. Il soignait les musulmans comme les chrétiens.
Oui, bien sûr.
Mais alors, quand il y a des protestants qui pointent le bout de leur nez et qui font un peu de prosélytisme, il devient terrible. Alors qu'il considérait des non-chrétiens comme ses frères, quand des chrétiens différents arrivent et veulent convertir les orthodoxes du coin, il devient terrible et il chasse le protestant.
Ben, en fait, on est chez Saint Arsène de Cappadoce et chez
19e début 20e.
Oui, et là, non, mais là, dans le contexte de l'époque, on est entre la fin de l'Empire ottoman, qui était finalement devenu beaucoup plus tolérant et qui n'a jamais été trop agressif envers les orthodoxes, si on veut mettre les choses comme ça, à part sur les Grecs, chez les Grecs, mais c'était un problème politique plus que religieux. Et qui vivait en paix avec des populations locales, bien que musulmanes, mais c'était ses voisins. Il lui donnait une poule de temps en temps, il allait les soigner, il les connaissait comme ses frères et sœurs.
C'est ça.
Ceux qui arrivent de là, c'est des Allemands, des Anglais, des Hollandais qui arrivent de l'étranger avec leur doctrine, encore une fois, rationalisante, telle qu'est le protestantisme de ces époques-là, surtout quand ils viennent d'Europe du Nord. Il faut bien se le mettre en tête. C'est pas un protestantisme très charismatique, c'est très rationalisant à l'époque. Et chez des populations qui sont dans l'esprit. Et puis, ceux qui ne savent pas que le Christ est arrivé sont pardonnés. Or, les protestants professent une hérésie, pour Saint Arsène de Cappadoce, ils professent une hérésie tout en sachant que le Christ est arrivé. Donc, eux sont coupables, pas les musulmans. Les musulmans sont ignorants de la vérité du Christ. C'est très important dans la doctrine orthodoxe. Quand on est ignorant, on est pardonné, on est sauvé. On est sauvé par le Christ. Quand on est ignorant, le jour où on connaît le Christ, qu'on est baptisé.
Ok.
C'est très important à savoir ça. C'est-à-dire qu'un païen qui ne connaît pas le Christ, un musulman qui ne connaît pas le Christ, pas qui ne veut pas connaître, mais qui ne connaît pas, parce que sa culture ne le lui permet pas, n'est pas condamnable. Si c'est un homme juste et droit.
Oui, s'il vit chrétiennement. Entre guillemets chrétiennement,
non,
c'est-à-dire...
juste et droit, pas chrétiennement.
De manière juste et droit.
On dit juste et droit. On dit juste et droit, pas chrétiennement, parce qu'il ne vivra pas chrétiennement en tant que musulman, mais il y a des musulmans qui ont une morale absolument, et qui ont une façon de vivre l'esprit qui est...
Des gens qui sont rien du tout, pareil.
Voilà, absolument. Des athées qui se comportent très très bien toute leur vie, des païens qui se comportent très très bien, enfin peu importe. Voilà. Donc ça, c'est pas condamnable. Dès les premiers siècles, l'orthodoxie, justement la catholicité, met un point d'honneur là-dessus, et ce sera le gros problème avec la catholicité de Rome, c'est-à-dire qui ne comprendra pas ça. Il faut attendre saint Thomas d'Aquin pour comprendre ça. C'est saint Thomas d'Aquin, en Occident, qui remettra les pendules à l'heure à ce niveau-là.
Il était de quelle époque, Thomas ?
XIIIe.
Hein ?
XIIIe.
XIIIe ?
XIIIe, XIVe. Qui en Occident remettra ça et dira que les ignorants, c'était à l'époque d'ailleurs où il commençait à étudier le Coran, en Europe, qui remettra ça, c'est-à-dire les hommes qui sont ignorants du Christ ne sont pas condamnables. C'est une très bonne chose qu'il a fait, saint Thomas d'Aquin. Ça, on ne peut pas le lui lever. Enfin, saint Thomas d'Aquin pour les catholiques, pour les orthodoxes, il n'est pas saint. Mais c'est voilà, le début de la scolastique en Occident. Et saint Arsène est un spirituel, il ne peut pas condamner les gens qu'il a à côté de lui parce qu'ils ne sont pas orthodoxes.
Mais... Et puis le Christ a dit, ceux à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, et ceux qui n'ont rien reçu, on ne leur demandera rien.
Complètement. On est toujours dans ce pardon, non, quoi qu'il en soit.
Ça, oui, oui, oui. Oui.
Dans l'anticipation même du pardon, c'est ça qu'il faut reconnaître. Il faut anticiper notre pardon, en fait. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est très difficile.
Eh ben, merci, Père Diacre.
Voilà. C'était une petite initiation au Père de l'Église, au Père Cappadocien.
Il y aura normalement deux autres séances.